Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agité du local, votre émission autour de l'actualité en Mayenne sur l'autre radio. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre et je suis ravie de vous accueillir donc pour cette nouvelle émission, émission dans laquelle on va parler transmission agricole avec le témoignage justement d'une transmission qu'il s'est fait il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant, alors que on le sait, eh bien, il y a la moitié des agriculteurs qui pourraient être à l'âge de partir à la retraite d'ici 5 ans sur un territoire rural comme la Mayenne. C'est donc un enjeu important. On va aussi entendre la chronique de l'association UFC Que Choisir en Mayenne qui va nous parler de la seconde main, notamment à l'approche de Noël et de vos cadeaux que vous avez peut-être fait ou pas. La seconde main peut être un choix économique et écologique, mais avec tous les bons conseils donc à retrouver de l'association UFC Que Choisir, ce sera plutôt dans une deuxième partie d'émission. Et donc, je vous le disais, la moitié des agriculteurs pourront être à la retraite dans 5 ans, d'ici 2030 en tout cas, selon les chiffres de l'INSEE. Sur un département rural comme la Mayenne, c'est donc un enjeu important pour la reprise et donc la transmission des exploitations agricoles, des fermes. Et ce sera d'ailleurs une question qui sera au cœur demain soir à Montsûr du Forum de l'installation et de la transmission agricole, organisé par le collectif TACT 53 ou TACTS 53, c'est plus facile à dire, tous pour une agriculture citoyenne, territoriale et solidaire en Mayenne qui regroupe 15 associations et structures engagées autour de ces thèmes justement. Ces structures seront présentes et on entendra aussi le témoignage de plusieurs cédants et repreneurs justement que je vous propose, eh bien justement, dans cette émission, déjà, d'en entendre sur le village, la commune de Saint-James-le-Robert. Ça s'est passé il y a un petit peu plus d'un an et demi. Et donc, je vous propose déjà d'entendre le témoignage du cédant.
Je m'appelle Thierry Cloteau. J'étais paysan jusqu'en avril 2021 à Saint-James-le-Robert. On était en couple sur une ferme qui faisait un élevage de vaches allaitantes avec vente directe de la viande de veau et de bœuf en colis, et puis des plantes médicinales. Et l'exploitation faisait 31 hectares.
Vous étiez installé depuis combien de temps ?
Depuis 1989, c'est-à-dire le siècle d'avant.
Et donc là, justement, comment s'est passée cette transmission d'exploitation ? Est-ce que directement vous avez trouvé un ou des repreneurs, ou ouais, c'est quelque chose qui a pris du temps, j'imagine, aussi ?
Alors, ça a pris beaucoup de temps. En fait, ça a pris 4 ans et demi au total. Donc, à un moment, quand on a décidé de réfléchir à la transmission, j'ai d'abord fait un stage avec l'AFOC, qui est une des associations membres du réseau TACT. Un stage de préparation à la transmission.
C'est important de se préparer, justement ?
Alors oui, c'est important de se préparer parce que déjà, il y a beaucoup d'éléments à comprendre pour de quoi est constituée la retraite, comment on a droit à la retraite, qu'est-ce qui manque, quelles sont les démarches à faire, etc. Ça, c'est pour la partie passage à la retraite. Et puis pour la partie transmission, il y a plein de points de vigilance à observer dans la relation avec les futurs repreneurs, à chaque étape, c'est-à-dire aussi bien au moment des premières visites qu'au fil du temps, quand on commence à discuter de la négociation, de ce qui est à vendre et ce qui ne l'est pas, de ce qui est optionnel dans notre désir de transmettre, et puis ce qui ne l'est pas. Par exemple, pour nous, c'était une ferme en bio, donc c'était pas du tout une option qu'elle ne soit pas reprise en bio. C'était obligatoire qu'elle soit reprise en bio. On voulait absolument transmettre la ferme en bio. Après, moi, j'ai passé pas mal de temps à entretenir le bocage et à planter des haies, etc. Donc c'est pareil, j'avais besoin d'un engagement vis-à-vis de la part des repreneurs sur le fait qu'ils maintiendraient le bocage. Bon, c'était des exigences que je m'étais fixées, quoi. Il y a eu plusieurs étapes. Les plus marquantes, c'est qu'on a rencontré, dès qu'on a passé une annonce dans le journal de l'ADARM, donc une autre association membre du réseau TACT, on a eu tout de suite quelqu'un qui était intéressé pour reprendre la ferme. Et donc on a organisé assez vite, après plusieurs rencontres, on a organisé un stage avec lui, un stage coordonné par la CIAP 53, autre association. qui lui a permis d'être un an en stage chez nous et de réfléchir à son projet. Donc il était quelques jours par semaine à la maison, quelques jours dans d'autres... parfois il allait faire des stages dans d'autres fermes pour se former. Et puis il y avait des temps de regroupement et des temps individuels de, pour rencontrer la banque, etc. quoi. Donc il a été en stage un an, tout en déposant son projet à la banque. Le projet lui a été refusé une première fois. Ensuite, on a utilisé une autre forme de stage qui est le parrainage, organisé par la Chambre d'agriculture, financé par la région. Ce jeune a passé 8 mois à reconstruire son projet et à nouveau à le représenter à la banque. Et il a essuyé un second refus, qu'on n'a jamais compris d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et on n'a jamais compris les raisons du refus, qui n'ont pas été très clairement exprimées par la banque. Et donc, on était très déçus, puisqu'on s'était investi quand même presque 2 ans avec lui. Et lui, il repartait à zéro, et nous aussi. Donc, tout le monde était un peu perdu. Donc, on a repassé des annonces dans le réseau ADARM, dans le réseau Terre de Liens, qui nous a amené pas mal de coups de fil. Et puis, on a rencontré ensuite un autre couple qui voulait se réinstaller sur une ferme différente de celle qu'ils avaient. Et les entrevues étaient très régulières pendant 3 mois, et puis tout d'un coup, ils ont lâché l'affaire. Donc on repartait à nouveau à zéro, donc on a repassé des annonces, et puis là, on a eu beaucoup d'appels, puis c'était juste avant le confinement, et pendant le confinement, donc on a eu pas mal d'appels à ce moment-là, des gens qui réfléchissaient à un éventuel changement de situation, retour à la terre, etc. Et on a rencontré des gens qui n'étaient pas tout à fait comme ça, en fait, qui avaient déjà une bonne expérience agricole, puisqu'ils avaient fait une formation en maraîchage depuis quelques années et qui travaillaient, c'était 2 jeunes femmes qui travaillaient chacune en maraîchage depuis quelques années, donc elles avaient une bonne expérience dans leur pratique. Ces jeunes femmes sont arrivées, en fait, elles sont arrivées, on les a rencontrées vers mars, elles ont fait une première visite avant le confinement. Elles sont revenues à la sortie du confinement. Là, elles ont décidé qu'elles prenaient la ferme. Et elles ont entrepris, dès qu'elles ont pu être libérées de leur travail salarié, elles ont entrepris les démarches. Et ça a duré 6 à 9 mois quoi, de démarches administratives. Mais elles ont été très vite et elles étaient très rapides. Donc elles ont réussi à franchir toutes les étapes administratives et financières assez rapidement, si bien qu'elles se sont installées au mois d'avril de l'année 2021. Et ben alors évidemment, toute la partie maraîchage, moi je ne pouvais absolument pas les conseiller, parce que je suis complètement incompétent. Par contre, j'avais une connaissance des sols et des zones sur lesquelles ça aurait été opportun de faire du maraîchage. Là, donc je les ai aidés à choisir. Après, j'ai apporté une aide technique sur l'élevage, sur le troupeau. Et puis dans la période qui a suivi leur installation aussi, il y a eu quand ils ont besoin, en fait, ils viennent me demander, et puis je passe du temps avec eux pour faire le tour des herbages, voir comment pousse l'herbe, voir comment organiser la rotation des pâturages, voir ce qu'on fait de tel ou tel animal, etc. Et également sur l'entretien des haies, justement. Ben, nous, il y avait 2 choses qui étaient claires. Moi, j'avais très envie d'arrêter et de passer à autre chose, quoi. Je trouvais que j'avais assez travaillé. Et puis la deuxième chose, c'était qu'on voulait absolument que la ferme soit reprise. Donc comme on avait une petite ferme, ce qui n'est pas dans la moyenne des fermes du département, on s'est dit, oula, ça a peut-être été difficile de trouver quelqu'un, donc il faut mieux qu'on s'y prenne tôt. On voulait pas du tout que la ferme parte à l'agrandissement, donc il fallait absolument trouver un repreneur. Et heureusement qu'on s'y est pris de bonne heure, quoi.
Et comme c'est un témoignage croisé aujourd'hui, on vous propose désormais d'entendre l'une des 3 associées du GAEC, Avril, qui a repris la ferme de Thierry Cloteau à Saint-James-le-Robert, donc en avril 2021.
Je suis Louise de Ruzel, une des associées du GAEC, la ferme d'Avril, qui a repris une ferme à l'Ermitage Saint-James-le-Robert en avril 2021. Et du coup, on produit de la viande bovine comme avant, du jus de pomme, et on a fait une création en maraîchage diversifié. Tout ça en agriculture biologique.
Comment est né ce projet déjà, tout simplement?
Du coup, avec mon associé Agnès Blé, on s'est rencontrés en 2017 en formation BPREA, et on avait toutes les deux l'envie de s'installer en maraîchage bio. Voilà, oui, on voulait s'installer en collectif, et donc on s'est rencontrés là-bas et on s'est bien plu, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait route ensemble à la recherche d'une ferme à reprendre ou à créer, et en parallèle on travaillait toutes deux dans des exploitations maraîchères pour se former.
Comment ça se passe justement lorsque vous disiez être à la recherche d'une ferme à reprendre? Comment ça se passe très concrètement? Par quels obstacles il faut passer peut-être?
Bah déjà, c'est beaucoup de recherche. Parfois on travaille en même temps, donc du coup on n'est pas forcément dans le département ou le secteur que l'on recherche, et donc c'était un peu le cas. Il faut trouver le temps, on va dire, entre son boulot et son temps libre, etc., pour chercher énormément sur internet, soit des sites comme Terre de Liens ou des sites plus classiques comme celui de la Chambre d'agriculture là, qui propose des terres et des fermes à reprendre. Du coup, on épluche les annonces et puis derrière, on appelle les personnes, on cherche à caler un rendez-vous et puis on se libère le temps d'un week-end pour aller faire 2-3 fermes en visite, quoi, en général. C'était comme ça que ça se passait. La ferme de Thierry, je pense que c'est la dernière qu'on ait visitée, en fait. Donc, entre 2017 et 2020, je pense qu'on a été visiter une cinquantaine de fermes ou de terres ou de projets à reprendre, quoi. Personnellement, je voulais avoir une sorte de feeling, enfin, me sentir bien sur la ferme. Souvent, je prenais le temps, un temps, on va dire, silencieux pour écouter. Par exemple, moi, si j'entendais le bruit d'une route, d'une quatre voies, c'était discriminant pour moi, je ne savais pas le faire. Comme on voulait s'installer en collectif, on a étudié plein de pistes, quoi, même des pistes d'arriver dans un collectif déjà existant et d'y créer du maraîchage. Donc pareil, rencontrer des collectifs, ça prend du temps. Rencontrer des fermes, des fermes complètement à reprendre entièrement, si c'est des fermes de 50 hectares, les légumes, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre avec nous pour faire une autre activité, parce que 50 hectares, on ne pourrait pas les exploiter toute seule. Donc voilà, il y a plein de questionnements, d'aller-retour, on fait un pas dans une direction, ça n'aboutit pas, on repart dans une autre direction. Mais ça permet d'étudier plein de champs de possibilités, en fait. Du coup, cette ferme, on l'a visitée au printemps 2020, de mémoire, c'est ça. C'était une ferme de 30 hectares en bovin allaitant, donc vente de viande, de colis de viande en circuit direct. Et avec un petit atelier de production de jus de pomme également, avec des cédants qui avaient quand même une grosse sensibilité sur la nature, la biodiversité, etc., qui avaient fait énormément de plantations de haies, donc ça se voyait, ça se sentait. Rien que les cédants eux-mêmes avaient l'air, très sympathiques, pas à bout de leur boulot, pas épuisés de leur carrière, etc. Enfin voilà, ça c'était quand même quelque chose de positif dans le contexte, quoi, parce que parfois on rencontre des personnes qui sont vraiment à bout de souffle et qui veulent tout arrêter le plus vite possible, et puis ça se sent dans leur discours, et ça c'est vrai qu'il y a une façon de se vendre aussi, je veux dire, c'est important, je pense, en tant que cédant, de bien présenter sa ferme, montrer le champ des possibles, etc. Du coup voilà, nous on voulait s'installer en maraîchage, du coup c'était pas une activité existante, et tout était possible, on nous présentait ça. On pouvait vraiment imaginer créer ce projet-là là-bas parce que c'était bien présenté et il n'y avait pas de frein. Le seul frein, du coup, c'était comment reprendre la ferme dans son entièreté. Donc avec l'atelier bovin allaitant et toutes les terres, etc. Et en fait, la solution s'est trouvée par le mari de Agnès, Olivier Kenny. Quand on était en recherche d'installation au projet de maraîchage, ils nous avaient dit « Et pourquoi on n'aurait pas quelques hectares en plus pour que moi, je puisse avoir 3-4 vaches ?» Et donc là, du coup, la question se posait « Et qu'est-ce que tu en penses de reprendre 15 vaches avec nous ?» Et c'est partant de là qu'il a été, qu'il a réfléchi, qu'on a réfléchi tous collectivement, qu'il était partant de tenter l'aventure, que nous aussi, on était partant de faire... d'aider aussi sur cet atelier, quoi, et de faire que ça marche, en fait, à trois, et avec ces trois activités sur cette ferme au complet, quoi. Vis-à-vis des cédants, Thierry et Marie, on est toujours en contact très proche, même, parce qu'en fait, ils ont déménagé à 100-200 mètres de la ferme. Donc, du coup, on se voit, je pense, toutes les semaines. On se voit plus en tant que voisins, entraide de voisinage, on va dire, ou même pas forcément pour s'aider, parfois juste pour se voir. C'est pas des cédants qui sont derrière notre dos à vérifier comment on fait ci, comment on fait ça, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. Pas du tout. Voilà, c'est des gens qui ont pris leur distance vis-à-vis de notre projet et qui, bah, au contraire, cherchent à nous aiguiller, nous accompagner, nous rappeler, nous redonner des contacts de fournisseurs ou des contacts de personnes avec qui ça pourrait, avec qui nos projets pourraient avancer à l'avenir, quoi. Donc voilà, c'est toujours dans l'encouragement et voilà, assez une entraide assez très positive, quoi. Voilà, une relation très positive qu'on garde avec eux, quoi.
Et vous pourrez les rencontrer et leur poser, bien sûr, d'autres questions demain de 17h30 à 22h30 à Montsûr, à la salle des Auréades, lors de ce forum de l'installation et de la transmission agricole. Autre temps fort prévu à 18h, justement, demain jeudi, la conférence de Bertrand Colli, un ancien membre du Conseil national économique, social et environnemental, le CESE, qui présentera son rapport intitulé « Entre transmettre et s'installer, l'avenir de l'agriculture ». On fait une petite pause en musique avec, justement, on reste dans la nature, on écoute « Papillon de voyou ». C'était Voyou avec Papillon dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et on passe à la chronique de l'association des consommateurs UFC Que Choisir en Mayenne, qui revient aujourd'hui alors que les prix continuent d'augmenter et à l'approche de Noël. On s'intéresse aujourd'hui donc à la seconde main. Bonjour Jean-Michel Guinaudeau. Dans cette chronique destinée aux consommateurs, vous souhaitez nous parler de l'achat d'objets d'occasion de seconde main. Pourquoi ?
Bien, comme vous le savez, la période des fêtes est une période de frénésie d'achat. Les magasins regorgent de marchandises. Mais malheureusement, le porte-monnaie et le compte bancaire sont loin d'être sans limite. Et la crise énergétique a amputé fortement ce que les économistes appellent le solde disponible, c'est-à-dire la somme que l'on peut dépenser pour les cadeaux. Et alors, quelle solution serait moins onéreuse ?
On vient de passer le Black Friday et ses énormes rabais.
Et justement, certains ont sûrement fait de bonnes affaires en espérant qu'ils ne se sont pas fait arnaquer par de faux sites. Mais toute l'année, il y a l'achat de matériel d'occasion.
Et quels sont les lieux où on peut les trouver ?
Et tout le monde connaît aujourd'hui les grandes surfaces spécialisées dans le déstockage, dont la société mayennaise bien connue. Mais ce sont souvent des objets de médiocre qualité et qui n'ont pas trouvé preneur sur leur marché, parce que ne correspondant pas au goût des consommateurs. Il y a bien sûr les friperies pour l'achat de vêtements de marques dégriffées. Ce sont des fins de collection. Les modèles, pas trop marqués par leur look, pourront encore faire la saison suivante. Il se monte des boutiques d'achat et de revente de matériel d'occasion, certaines s'étant spécialisées dans la revente de matériel retourné par les consommateurs dans le cadre du droit de rétractation, et dont l'emballage, par exemple, est abîmé. Enfin, il y a les ventes des associations caritatives, dont Emmaüs.
Mais ces objets sont-ils sûrs ?
Tous ces produits achetés chez un professionnel bénéficient de la garantie légale de conformité de 1 an. Tout défaut qui apparaît pendant cette période est présumé exister depuis l'achat, et le vendeur doit, à la demande de l'acheteur, soit remplacer, soit réparer le produit. Le vendeur peut contester, mais doit prouver par une expertise indépendante, et non de son SAV. Contrairement aux achats sur le Bon Coin, où les achats se font entre particuliers, et pour lesquels il n'y a pas de garantie légale.
Comme pour un produit neuf ?
Ah, rappelons que pour le produit neuf, la durée de garantie légale est de 2 ans. En achetant un produit de seconde main, le consommateur fait une bonne affaire, avec un produit garanti à un prix souvent inférieur à la moitié du prix neuf. De plus, il participe aux économies d'énergie, à une moindre pollution et à une moins grande utilisation des ressources de la planète. Et dans les recycleries, il aide les associations caritatives à mener leur mission.
Et alors, parmi les objets possibles, lesquels conseilleriez-vous aux auditeurs ?
Évidemment, les vêtements d'abord, la maroquinerie, les livres, les jouets, et surtout ceux pour les premiers âges, car ils sont utilisés pendant une courte période, certains appareils électroménagers, comme les raclettes, les planchas, les crêpières, souvent achetés sur un coup de cœur, mais dont l'usage s'avère peu fréquent et qui prennent de la place dans les placards. Enfin, achetés dans un magasin local, la résolution de problèmes pendant la période de garantie sera plus facile qu'en cas d'achat sur Internet.
Merci Jean-Michel Guinaudeau pour ces informations qui nous permettront de faire des économies. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association au cas où nos auditeurs mayennais seraient en litige avec un professionnel ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel.
Merci Jean-Michel Guinaudeau. Dernière chronique de l'année pour UFC Que Choisir en Mayenne, de l'année 2022 évidemment, eh bien ce sera dans 2 semaines. Là tout de suite, je vous propose d'écouter Stereophonics avec Hanging on Your Hinges. C'est parti, vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio.
Have faith. You got time. but you think it's all a race. You got me hanging on your hip, just slamming doors right in your face. You got time, you got youth, yeah.
C'était Stereophonics Hanging on Your Hinges dans l'agité du local qui touche à sa fin. Et oui, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez sur l'autre radio puisqu'à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Chaosphère. Avec ce soir une spéciale black atmosphérique avec des groupes d'Ukraine, du Chili, de Serbie, d'Iran. On vous propose une ambiance entre violence du black metal et plage méditative. Ce sera à 21h avec Chaosphère. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite surtout une très belle journée.